Que diriez-vous d'un petit voyage dans la Chine de 1860, une Chine d'or et de soie, de lacs, de porcelaine, d'encre et de sang? Au nord-ouest de Pékin se trouve alors un palais d'une taille et d'une richesse indescriptibles. C'est la résidence estivale de l'empereur de Chine, autant dire le fils du ciel, le palais d'été, Yuan Min Yuan en chinois. Il se compose de quelques 36 vastes pavillons ordonnés dans une enceinte de 40 km de circonférence, enserrant des lacs fleuris, des jardins sublimes, avec cela des pagodes, des kiosques, des temples tous plus raffinés les uns que les autres. Se succèdent le palais des bannières, rouge écarlate et vert d'eau, avec les toits dorés à leur fin, le palais du Grand Pont, à l'issue d'une énorme passerelle de marbre sculpté, le palais de la Méditation, avec ses grands mâts à pavillons de soie jaune, le jaune étant la couleur de l'empereur, le palais des femmes aussi, autour d'un canal cruciforme, et puis le palais d'Europe, construit vers 1750 sous l'impulsion de missionnaires jésuites et qui voulait s'inspirer directement de Trianon et du style versaillais. Sans oublier, bien sûr, le palais impérial, admirable, avec ses colonnades de pourpre et d'or, ses gigantesques brûle-parfums de bronze doré, sa bibliothèque de manuscrits rares, rangés là par dizaines de milliers. Nous possédons une description livresque et poétique des lieux, description due à Victor Hugo et qui mérite que je vous en livre quelques extraits. « Il y avait, dans un coin du monde, écrit Victor Hugo, une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le palais d'été. » Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine. Charpentez-le en bois de cèdre. Couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie. Faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres. Vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le. Faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des paons. Supposez en un mot une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais. C'était là ce monument. Il avait fallu, pour le créer, le lent travail de deux générations. Cet édifice, qui avait l'énormité d'une ville, avait été bâti par les siècles. Pour qui ? Pour les peuples. Car ce que fait le temps appartient à l'homme. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissaient le palais d'été. Voltaire en parle. On disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le palais d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin, dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Eh bien, ce monument que nous décrit ainsi Victor Hugo, les vicissitudes de l'histoire vont en venir à bout. Les vicissitudes de l'histoire, ou pour être plus précis, la soldatesque franco-britannique, puisque ce sont les troupes de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon III qui sont venues saccager ce chef-d'œuvre. Et l'on peut dire que le sac du palais d'été aura été le point d'orgue d'un long malentendu entre l'Occident tout jeune et le vieil Orient extrême. Tout avait commencé en 1839, et à propos d'une affaire d'opium, les Britanniques, pour des raisons commerciales, importaient à l'époque en Chine de très grosses quantités d'opium. Le gouvernement impérial était bien décidé à lutter contre ce qu'il regardait comme un fléau, et il a pris la décision de jeter à la mer d'un coup 20 000 caisses de cette drogue importée par les Britanniques. Évidemment, pour l'Angleterre, il y a là un motif de guerre. La supériorité militaire des pays occidentaux est telle que la Chine n'est pas de taille à lutter. Elle va donc devoir s'incliner. Elle signe à Nankin un traité au terme duquel 5 ports, dont Shanghai, resteront désormais ouverts aux Britanniques et aux Américains. Et par ailleurs, le port de Hong Kong sera cédé pour longtemps à la Grande-Bretagne. 2 ans plus tard, en 1844, la France obtient les mêmes avantages auxquels s'ajoutent des clauses religieuses visant à protéger les missions catholiques. Mais en 1856, un missionnaire est torturé et, pire aux yeux des Occidentaux, une jonque battant pavillon britannique est capturée à Canton. Dans la foulée, plusieurs comptoirs anglais sont incendiés. La riposte ne se fait pas attendre. 2 escadres, l'une anglaise, l'autre française, bombarde Canton, puis elle se précipite dans l'embouchure du Pei Ho et remonte le fleuve jusqu'à Tientsin. À Tientsin, on n'est plus qu'à 130 km de Pékin. La cour de Chine, à ce moment-là, prend peur. Un traité est signé en juin 58 qui octroie de nouvelles prérogatives ouvrant aux Occidentaux de nouveaux ports. Les diplomates délégués par Londres et Paris sont Lord Elgin et le baron Gros. L'échange des ratifications aurait pu n'être qu'une formalité, mais en fait, quand les diplomates occidentaux se présentent à l'embouchure du Pei Ho, ils vont trouver le fleuve barré. C'est une épreuve de force, une de plus, et c'est de nouveau la guerre. Août 1860, une flottille anglaise et une autre française débarquent chacune un corps expéditionnaire. Les soldats britanniques sous les ordres de Sir Grant sont 12 000, les Français, commandés par le général Cousin Montauban, sont 8 000. Autant dire une poignée d'hommes face à des millions de Chinois. Oui, seulement cette poignée d'hommes maîtrise la guerre moderne. Voici comment leur parle à ces hommes le général Montauban. « Un jour, dit-il, en rentrant dans la mère patrie, vous direz avec orgueil à vos concitoyens que vous avez porté le drapeau national dans des contrées où la Rome invincible, au temps de sa grandeur, n'a jamais songé à faire pénétrer ses légions. » Ce ne sont pas précisément ce qu'on pourrait appeler des intentions pacifiques. Grâce à leur artillerie, les Occidentaux vont prendre un premier fort aux Chinois, et puis 3 autres se rendent dans la foulée. À la limite, c'est presque trop facile. Pour des soldats britanniques ou français, il est évident, il est simple de lutter contre cette armée chinoise suradministrée, engoncée dans ses vieux codes d'honneur. À Pékin, la cour impériale suit le récit des défaites avec consternation. L'empereur Hunfung publie un manifeste stigmatisant l'invasion des barbares et leur promettant une terrible punition. En attendant, les barbares s'en moquent. Le 22 août 1860, sans prévenir les Français, les Britanniques remontent le fleuve avec un navire amiral et 5 canonnières. En 2 jours, cette flottille est à Tientsin. C'est le moment que choisit le vice-roi local pour se rapprocher du représentant français, le baron Gros. Alors des négociations s'amorcent, les diplomates occidentaux déclarent qu'ils se contenteront de la confirmation du traité de 1859, confirmation assortie d'excuses en bonne et due forme. L'envoyé de l'empereur accepte tout ce qu'on veut, mais en vérité, il ne cherche qu'à gagner du temps et prétexte de l'absence du sceau impérial pour faire traîner les choses. Subtilité chinoise, efficacité occidentale, vous voyez que ce sont bien là 2 civilisations qui, après des millénaires d'éloignement et d'ignorance mutuelle, sont en train de s'affronter sans se comprendre. Les alliés franco-britanniques décident alors de marcher sur Pékin. Une ultime entrevue avec des commissaires impériaux a lieu à quelques kilomètres de la capitale de l'Empire. Nous sommes là le 15 septembre, le 18, c'est l'embuscade. Une délégation occidentale est attaquée par des Mongols, les diplomates sont jetés à bas de leur monture, ils sont attachés, ils sont emmenés. C'est de nouveau l'épreuve de force, les 2 armées se mettent en ordre d'attaque, l'affrontement principal a lieu au pont de Palikao, 5 000 Français, soutenus par une petite artillerie et autant de Britanniques avec leur propre cavalerie, vont affronter une armée tartare de 30 000 hommes. Or, une fois de plus, c'est la supériorité manifeste des Occidentaux dans les armes qui s'impose. Le colonel d'Hérisson, qui accompagne Montauban, déclare, je le cite, « Cette bataille faisait l'effet d'un rêve. On marchait, on tirait, on tuait, et personne n'était touché, ou presque personne. À 15 heures, les derniers escadrons tartares sont vaincus. Les Occidentaux ont perdu moins de 10 hommes. Les Tartares en laissent plus de 1000 sur le terrain. C'est un triomphe pour le général Montauban. Alors, que vont faire les Alliés au lendemain d'une telle victoire? Ils décident de contourner Pékin et de foncer droit sur le palais d'été. À ce moment-là, l'empereur, le fils du ciel, a quitté les lieux. Il a déserté la sublime cité pour gagner, avec toute sa cour, la province du Géol. C'est son frère qui est investi de la régence, qui va traiter avec les chefs militaires occidentaux. Il traitera, mais sans aucun succès. Aussi les Alliés programment-ils une descente sur le palais d'été. Ils la programment pour le 6 octobre à 4 heures du matin. Les Britanniques, selon leur bonne habitude, vont griller la politesse à leurs alliés. Ils lèvent le camp dès minuit et voilà bientôt leur chef dans l'enceinte aux merveilles. Rassurez-vous, les Français vont les suivre de peu. Et c'est l'éblouissement qui saisit les intrus. Je cite de nouveau d'Hérisson. « Il me faudrait maintenant, pour dépeindre toutes les splendeurs qui s'offrirent à nos yeux, faire dissoudre dans de l'or liquide un spécimen de toutes les pierres précieuses connues et y tremper une plume de diamant qui aurait pour barbe les fantaisies d'un poète oriental élevé sur les genoux des fées et habitué à jouer tout enfant dans leurs trésors chimériques. « Je renonce, » poursuit d'Hérisson, « je renonce à peindre l'admiration et l'étonnement des barbares qui pénétraient au milieu de ces murailles. Involontairement, nous parlions bas et commencions à marcher sur la pointe des pieds en voyant amonceler avec une telle profusion ces richesses que leur propriétaire avait abandonnées dans la fuite avec la tranquillité d'un bon bourgeois qui tire sur lui la porte de sa demeure, laisse son mobilier en acajou exposé au hasard de la guerre. » Les chefs militaires qui avaient vu tout ça, qui avaient visité ce palais incroyable, en sont rentrés, je les cite, « les yeux brûlés par tout cet or ». Seulement ces officiers étaient accompagnés de sentinelles, et les sentinelles ne vont pas pouvoir s'empêcher de parler à leurs camarades. Tant de richesses offertes là, à portée de main! Pour éviter de se laisser déborder, Grant et Montauban décident qu'elles seront partagées entre les deux armées. Ce sont les officiers français et britanniques qui vont procéder à ce partage. Encore faudrait-il être capable de contenir la troupe. Encore faudrait-il être capable d'empêcher la ruée et le déferlement en désordre des hommes enivrés par la soif de l'or. De nouveau le colonel d'Hérisson. Les Français pillent au hasard, détruisent pour le plaisir, arrachent des pierres qu'ils croient précieuses, brisent des pendules à coups de hache et se précipitent sur les boîtes à musique, les horloges à sujets animés. Chaque troupier avait son oiseau, sa boîte à musique, son singe, sa pendule, son réveil et son lapin. C'était une sonnerie générale, toutes les heures, dans tous les timbres, tintait sans discontinuer, accompagné de loin en loin du craquement triste d'un grand ressort surmené qui se brisait sous des doigts inexpérimentés. Des multitudes de lapins jouaient du tambour, formaient une basse, accompagnées des cymbales des singes aux 4000 romances et quadrilles, fredonnées ensemble par autant de boîtes à musique et de serinettes que dominaient le roupiou-piou des oiseaux, les roulades des flûtes, le nasillement des clarinettes, le grincement des chanterelles entrecoupées des rentrées de pistons et de cornemuses, et aussi les éclats de rire sonores de ces braves gens si faciles à amuser. Les étoffes précieuses, nous dit plus loin d'Hérisson, couvraient les cours de plusieurs pieds d'épaisseur. On s'en servait comme de matelas et de toile d'emballage. Voilà pour le pillage. Seulement, les Occidentaux ne devaient pas s'en tenir là. Rappelez-vous ce qui s'était passé le 18 septembre. La délégation diplomatique arrêtée, les gens emmenés. Les Chinois conservaient à ce moment-là 39 prisonniers. Ils vont en rendre 8 le 8 octobre et puis 9 autres le 12. Ces rescapés parlent de mauvais traitements. Certains évoquent la torture. On va bientôt apprendre que 22 des otages, dont le correspondant du Times en Chine, sont morts. C'est donc à titre de représailles que Grant va proposer d'incendier le joyau de la cour impériale, ce fameux palais d'été. Alors côté français, on s'inquiète du projet, on va même chercher à l'empêcher. Le général Montauban refuse de prendre part à une opération, entre guillemets, dirigée par un esprit de vengeance. Ainsi, les Français ne participeront pas au saccage. Pour eux, le pillage a suffi. Le baron Gros lui-même va prendre la plume pour essayer de défendre le palais pillé. Cette destruction aurait un caractère de vengeance inutile, écrit-il, puisque malheureusement elle ne pourrait remédier à aucune des cruelles infortunes que nous déplorons. Mais Elgin ne veut rien savoir. Lui se contente de rappeler le sort du fameux journaliste torturé puis jeté en pâture au cochon. « Que dirait le Times si je ne vengeais pas son correspondant » dit-il. Ainsi donc, l'heure de la vengeance a sonné. Les 18 et 19 octobre, le palais d'été va être livré aux flammes, de manière ordonnée, voulue, méticuleuse. 2 jours et 2 nuits ne suffiront pas à réduire la merveille en un tas de cendres. Rien ne sera épargné, pas même la richissime bibliothèque impériale. Ainsi disparaîtront les plus précieux manuscrits de l'Antiquité chinoise, plus de 10 000 ouvrages, dont certains comptaient 5 000 volumes. Un auto-da-fé sans exemple, pire peut-être que l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors que le palais des empereurs de Chine achève de se consumer, les conséquences de cette démonstration de force s'imposent. Le prince régent capitule, il va traiter sans condition, il accepte de verser à la France et à l'Angleterre de très lourds dommages de guerre, mais pour l'Occident, c'en est fini définitivement du respect des Chinois. Quand elle quitte Pékin début novembre, l'alliance franco-britannique fait figure de monstre. En Europe, la nouvelle des succès militaires de l'expédition est accueillie triomphalement. On acclame les vainqueurs. Lord Elgin sera bientôt nommé vice-roi des Indes. Quant au général Montauban, il est fait comte de Palikao. Quant aux richesses pillées, que sont-elles devenues? Eh bien, en vérité, ce que les hommes de troupe avaient emporté avec eux, souvent n'a même pas quitté la Chine. Les plus extraordinaires merveilles ont été rachetées par les marchands chinois eux-mêmes, des marchands qui ont profité de l'aubaine. Certaines pièces de grand prix finiront, c'est vrai, dans les salons provinciaux de petites maisons françaises, et vous savez qu'elles alimentent encore le marché des antiquités d'Orient. Parmi les voix bien rares qui se sont opposées à ce pillage, qui se sont indignés de ce saccage, celle de Victor Hugo surnage. Elle se fera entendre à jamais. « Un jour, écrit-il, 2 bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse à ce qu'il paraît. Devant l'histoire, l'un des bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. »